bienvenue dans le Point Max.
Je voudrais juste revenir sur ce que disait Max tout à l'heure.
Boulevard. 102.1.
10h42 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. On jasait santé dans les dernières minutes avec le pharmacien Jean-Philippe Bergeron. Et là, on se tourne vers un autre domaine excessivement important. Un peu partout dans le monde, mais au Québec aussi, puis on en parle souvent. Pour de bonnes, mais malheureusement trop souvent aussi pour de moins bonnes raisons. Et ce matin, dans le Journal de Québec, on nous dit que 1300 profs permanents ont remis leur démission dans les écoles publiques québécoises. Du côté de Radio-Canada, on nous parle des employés de soutien qui sont... le personnel de soutien qui est dur à recruter au Québec, malgré le fait que la ministre de l'Éducation a tenu sa promesse d'éliminer les plafonds d'embauche dans le réseau. Ben, il y a bien du personnel qui a quitté. Puis là, ben, ils se sont trouvés des jobs ailleurs. Puis t'as beau leur dire, hey, reviens finalement. Ben non, je me suis trouvé une job ailleurs, je vais rester ailleurs. Bref, pour en parler de ces deux dossiers-là, entre autres choses, j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Marc-André Smith. Il est directeur général de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Marc-André, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour, M. Larouche.
1300 profs permanents qui ont remis leur démission pour l'année 2023-2024. Comme je disais, c'est le Journal de Québec qui nous apprend ces chiffres-là ce matin. Est-ce qu'on est surpris du chiffre?
Bien, en fait, c'est sûr que ça surprend comme donnée. C'est beaucoup. Il faut prendre en perspective qu'il y a 94 000 profs au Québec. Mais c'est certain, Max, qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le réseau de l'éducation au Québec, puis ailleurs au Canada ou ailleurs sur la planète. Donc, c'est clair qu'il y a des gens qui quittent le réseau actuellement pour des bonnes raisons, puis pour différentes raisons, des raisons des fois d'épuisement, de recherche, de découverte, de voir autre chose, de faire autre chose, de travailler différemment. Donc, il y a autant de raisons qu'il y a de monde qui quitte finalement, mais oui, c'est sûr que ça surprend là, ce chiffre-là.
Un des éléments qui est soulevé dans l'article du journal, c'est que on n'a pas vraiment justement les raisons des départs. C'est-à-dire que une démission ne veut pas nécessairement dire un prof de moins dans le réseau parce qu'un prof peut avoir remis sa démission pour aller travailler dans un autre centre de service scolaire. C'est-tu normal qu'on n'ait pas accès à ces détails-là, à ces éléments d'information-là qui nous permettraient d'avoir un portrait pas mal plus complet de la chose?
Bien, c'est certain que chaque personne qui démissionne, il y a un contexte. Puis c'est là que le service des ressources humaines de chaque centre de service va discuter individuellement avec chaque personne qui a l'intention, qui veut démissionner. Ensuite, d'aller chercher de la donnée plus macro, si on veut, bien, je me répète, là, mais Max, il y a énormément d'opportunités. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir des fois des changements pour la conciliation travail-famille, où tu t'établis quand t'es jeune, tu sors de l'université, tu dis « Hey, moi, je vais vivre l'expérience. » J'en suis, là. J'ai travaillé là, 2 années dans le nord du Québec là, pour, à l'époque, la commission scolaire Cativique. Puis j'avais le goût de l'aventure, j'avais le goût de vivre ça. Mais j'ai démissionné de ce centre de service-là, mais je suis toujours dans le réseau d'éducation. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'exemples. J'en suis un, mais tout autant passionné encore par l'éducation. Donc, il y a des gens, oui, qui font des mouvements, on va dire, latéraux. Puis il y a des gens qui s'exportent, il y a des gens malheureusement qui démissionnent parce que c'est des emplois qui sont difficiles, c'est des emplois à haute vocation, haut développement vocationnel, puis avec une charge mentale qui est élevée, puis on voit tout ce qui se passe également en société, c'est des micro-sociétés, une classe, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui actuellement sont en situation d'épuisement, l'ont été pendant peut-être 3, 4, 5, 6 ans. J'ai la vocation d'enseigner, je rentre, puis je suis pas à mon top, se soigne pas, puis éventuellement, au lieu d'être en arrêt de travail ou quoi que ce soit, je préfère quitter, puis faire autre chose complètement. Fait que oui, ça pourrait être pertinent, mais maintenant, c'est pas une demande que nous, l'Association des directions d'école, on a adressée au ministère.
Est-ce que tu as l'impression, Marc-André, que les chiffres vont être encore pires pour 2024-2025 quand on va les avoir? Parce que là, comme je l'ai dit, là, les chiffres qu'on a, les 1300 profs permanents qui ont démissionné, c'est pour 2023-2024. Puis ça n'a pas été nécessairement... disons que la, la réputation du métier de l'enseignement, ça n'a pas nécessairement été facile dans les dernières années. On dit souvent que c'est un emploi qui peut être assez difficile, qui est très, très demandant. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on s'attend à des chiffres encore plus élevés?
Bien, c'est sûr que les centres de services, dépendamment d'où on est au Québec, vont prendre des décisions courageuses, c'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de congés, par exemple une demande de congé sans traitement qu'un enseignant va adresser à sa direction. Il va avoir des orientations pour des centres de services disant, bien, écoutez, on n'octroie plus des 20%, on va octroyer des 10%. Donc, une demi-journée par semaine, c'est le maximum parce qu'on est en contexte de pénurie. Et qu'il y a des gens qui, en réaction à ça, disent, ben moi, j'ai besoin d'une journée par semaine. Je suis pas malade, mais je veux pas aller voir mon médecin pour exiger d'avoir un billet pour obtenir une journée par semaine où je suis pas au travail, où je fais d'autres choses. Je fais conciliation travail-famille, par exemple, ou que je veux m'impliquer ailleurs. Ben ça force les directions d'école à avoir ensuite des discussions courageuses avec un enseignant, puis en lui disant, non, c'est une position, c'est une orientation, c'est pas juste toi, c'est d'autres. Puis il y en a qui se feront refuser ça, ben se tournent, vont regarder des opportunités ailleurs, que vers des organisations qui n'ont pas ce genre de directive-là, entre autres le réseau des écoles privées, par exemple, mais il peut y avoir des mouvements où ils vont quitter le secteur primaire-secondaire pour aller travailler aux adultes ou en formation professionnelle. Fait que oui, il y a plein de départs, puis je pense que la pénurie actuellement, ben, crée des effets collatéraux sur d'autres enjeux de recrutement et de maintien du personnel dans les écoles.
Ben justement, le ministère de l'Éducation a éliminé les fameux plafonds d'embauche dans le réseau, mais ce que nous dit Radio-Canada ce matin, c'est que le recrutement de personnel de soutien, ça reste assez compliqué. Puis je donnais l'exemple avant qu'on amorce la discussion, des employés de soutien qui avaient une job, puis là, se font dire par le centre de services scolaires, ouais, finalement, on n'a pas les moyens de te garder. Puis là, cette personne-là s'en va se trouver un autre job ailleurs. Ben, c'est bien plate pour le centre de services scolaires, mais quand on vient enlever le fameux plafond, puis que là, le service scolaire veut retourner chercher cet employé-là, ben, lui, il s'est trouvé un autre job. Il va pas nécessairement retourner dans le réseau scolaire. Ça, c'est une des problématiques qui rend ça assez compliqué actuellement.
C'est clair, Max, que ça rend ça extrêmement compliqué. C'est pas une bonne gestion du réseau scolaire de dire à des gens, t'as une job en juin, finalement, le ministre annonce des coupures, puis là, ben c'est le directeur d'école qu'il faut qu'il annonce que finalement, le projet particulier qu'on avait imaginé pour aider la réussite des élèves, pour permettre d'avoir une proximité, d'assurer le bien-être, ben là, finalement, on dit... Oh non, on ne prend pas. Puis là, on se réveille au mois d'octobre. Ben, finalement, on te reprendrait. Mais ça fait pas que la personne se sent, un, considérée, deux, valorisée. Puis trois, intègre quelqu'un dans ton équipe école, rendu au mois d'octobre. Comment bien faire un accueil? Comment bien lui expliquer ses mandats? Le lien avec l'élève, ça se développe pas en claquant des doigts. Là. C'est des jeunes vulnérables là, qui... Souvent, c'est des jeunes les plus difficiles. C'est ceux qui ont le plus besoin d'amour. C'est ceux qui l'expriment de la pire façon, souvent. C'est des jeunes qui ont des comportements avec, qui font des mauvais choix. Puis là, ben, tu veux engager des gens ici maintenant pour corriger une situation d'embauche, mais ça a un impact sur le climat. Fait que c'est clair, Max, que c'est inquiétant. Puis c'est pas facile. Rendu au mois d'octobre, fin octobre, comme ça, de recruter des gens pour des jobs à temps plein, puis venir combler les trous. Puis est-ce que c'est des jobs à temps plein ou si c'est des jobs où est-ce qu'on se crée une petite marge de prudence pour dire bon, on n'engagera pas en cas que ça revire encore de bord. Tu sais, c'est un peu particulier là, ce qui se passe dans le réseau là, avec les cibles, les plafonds d'embauche. Là, ça rend encore une fois le travail des directions d'école plus complexe. Puis, tout est dans les relations. Fait que c'est sûr que ça c'est pas très attractif non plus. Pour des gens qui souhaiteraient intégrer le réseau scolaire.
Cette gestion-là, je pense qu'on peut dire déficiente du gouvernement, comment on l'explique? Est-ce que c'est une déconnexion? Est-ce que c'est des gens qui, à la table des décisions, savent pas vraiment comment ça fonctionne, puis prennent leurs décisions peut-être selon des chiffres, puis là, se rendent compte que, oh, finalement, ben là, la population est pas contente, fait qu'on va juste renverser tout ça, puis ça devrait être correct?
Mais on pourrait en discuter pendant des heures. Moi, j'ai l'impression, des fois, que ça revirait de la vapeur, là, des des interrogations comme ça, moi, je me l'explique mal. On dirait que depuis que la décote du Crédit du Québec, il y a des décisions avec peu de délais, puis on n'a pas de marge, on n'est pas capable, les associations de direction d'école, de faire bouger le gouvernement. Il est intransigeant sur très perméable à nos demandes. Donc, c'est sûr que c'est le personnel de direction des écoles trouve que c'est une année qui est particulière, justement, dans la reconnaissance du personnel. Tu sais, on dit que c'est important pour prendre soin de la santé mentale des gens, puis c'est vrai, on y croit, les directions d'école. Par contre, quand on n'a pas de personnel de soutien, puis qu'on a un élève qui est désorganisé parce qu'il est trop proche de ses émotions cette journée-là, ça va pas, puis t'as pas d'éducateur spécialisé, bien, c'est le directeur d'école, souvent, qui va être appelé pour juste aller s'assurer que l'enfant se calme, puis qu'il est prêt à revenir en classe, qu'il va être disposé à faire des apprentissages. Parce que l'enseignant ne peut plus, là, à un moment donné, il y a une limite, là, il ne peut pas gérer ça si le jeune est vraiment désorganisé et que j'ai pas de personnel de soutien. Ce qui fait que le directeur, ben, il se ramasse dans les opérations courantes, puis il a moins de temps pour faire son travail. Fait que c'est ça, c'est vrai au primaire, puis c'est vrai au secondaire aussi. Puis j'aime pas ça quand les directions d'école sont vues comme des préfets de discipline. C'est pas ça notre rôle. Donc, on est supposé justement d'être, oui, il y a un aspect disciplinaire, mais il y a une étape avant d'arriver à la direction. Quand le directeur débarque trop vite, parce que des jeunes se comportent pas de manière attendue, ben ça a des impacts à moyen long terme.
Je termine, Marc-André, en tissant un lien entre les deux sujets dont on a parlé, les enseignants qui démissionnent et l'embauche de personnel de soutien qui est pas facile présentement. Est-ce qu'il peut y avoir un lien à faire entre le manque de personnel de soutien et la démission de certains enseignants?
Ah, il y a des corrélations par là. C'est sûr que quand tu es laissé avec 26 enfants en classe, t'as ton idée, t'as planifié ta séquence, tu sais où est-ce que tu veux aller, puis que t'as des élèves qui ont besoin de différenciation pédagogique, t'en fais déjà énormément, puis tu veux viser la réussite des élèves. C'est ça notre mission, là. Donc, de sentir qu'il te manque des outils pour accomplir ton travail d'enseignant, c'est sûr que ça a une incidence, c'est clair. D'avoir une personne en moins pour venir t'appuyer quand tu as des idées de projet, quand tu veux motiver les jeunes, des fois, juste techniquement, là, ça te prend des fois une deuxième paire de bras, puis on veut intégrer les technologies en classe, mais pas tous les élèves qui ont le même niveau d'acuité avec les technologies, puis comment bien les intégrer. Donc, c'est sûr que ça ajoute à la charge mentale des enseignants, c'est clair.
Marc-André Smith, directeur général de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Merci beaucoup pour ton temps ce matin.
Oui, merci Max. Merci. Bonne semaine à toi et aux auditeurs.
Salut, à la prochaine.
Merci.
Donc, la discussion qui va se retrouver sur le blvd.fm, section réécoutée, sur l'application mobile Boulevard 101, que je vous invite, bien sûr, à télécharger pour, oui, reprendre certaines discussions, mais aussi nous écouter en direct, peu importe d'où vous êtes, au Québec, au Canada, ou un peu partout sur Terre. Au retour de la pause, on jase psychologie dans l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, il est 10h55.
Le point de Max. Le pit stop. Le duo Gravel-Marceau est de retour maintenant à 7h45 pour traiter des gros dossiers du jour. Votre nouveau rendez-vous incontournable du matin. Le pit stop.
Que ce soit des questions dures à l'égard...